Bonsoir à tous. Damien Abad reste en poste et se dit innocent. Deux femmes l'accusent, mais il a bien assisté au premier conseil des ministres ce matin. C'est à la justice de trancher, juge le gouvernement, rentré embarrassé tout de même. Pour la première ministre, qui n'en a pas dit mot pour son premier déplacement après le conseil aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Pape Ndiaye était lui aux côtés des collègues de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine cet après-midi. L'actualité, c'est encore la guerre en Ukraine. L'offensive russe s'intensifie dans le Donbass. Kylian Mbappé explique son choix de rester au Paris Saint-Germain. Et puis l'exploit de Diane Paris à Roland-Garros, 97e mondial. Elle sort la numéro 1 dès le premier tour. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien, à l'hôpital ce soir, l'un des énormes chantiers de ce nouveau quinquennat. L'hôpital souffre des mêmes maux qu'avant et pendant le Covid. On verra pourquoi c'est peut-être encore pire. Manque de lits, manque d'effectifs, manque d'attractivité, c'est le moins qu'on puisse dire, des métiers médicaux. Épuisement, rupture de l'accès aux soins parfois. Est-ce que l'hôpital public va passer l'été? À vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est un ministre mis en cause, accusé de violences sexuelles et même de viol, qui se défend ce soir. Damien Abad, la prise LR du gouvernement d'Elisabeth Borne, accusée par deux femmes, a pris la parole il y a quelques minutes dans la circonscription de l'Ain où il se présente.
Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. Ces accusations m'infligent, comme à mon entourage, une blessure profonde. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Désormais, je me consacre à ma mission de ministre, un ministre qui souhaite être sur le terrain, au plus près de la vie quotidienne des Français, garder les pieds sur terre, et je suis aussi pleinement engagé dans ma campagne législative comme candidat dans la 5e circonscription de l'Ain.
Damien Abad avec Christophe Vincent. Deux femmes accusent le ministre. La première a porté plainte pour viol en 2017. Elle dit avoir eu une relation consentie mais lui reproche de ne pas avoir arrêté quand elle lui aurait demandé. Plainte classée sans suite. La deuxième raconte un dîner avec lui en octobre 2010 et un trou noir ensuite jusqu'à son réveil à ses côtés en sous-vêtements le lendemain. Bonsoir Maxence Lambrecq.
Bonsoir.
Une affaire qui a embarrassé la rentrée du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement.
Et l'occasion d'habitude d'une photo de famille qui donne le top départ. La photo n'a pas eu lieu. La seule image que l'on retient, c'est ce visage fermé, ce regard fuyant de Damien Abad dans la cour d'honneur. Et la seule déclaration marquante est celle d'Olivia Grégoire, la nouvelle porte-parole du gouvernement, contrainte de le défendre.
La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad.
Si la moindre enquête préliminaire est ouverte, il faudra qu'il sorte, estime hors micro beaucoup de macronistes qui ne supportent pas la séquence en pleine campagne des législatives, d'autant que l'affaire est exploitée par toutes les oppositions. À l'instant, Marine Le Pen en déplacement dans les Bouches-du-Rhône au micro d'Élodie Forêt.
Ça en dit long en réalité sur le comportement du président de la République, c'est-à-dire qu'il ne peut pas résister à faire un bon coup. Le bon coup, c'était d'arracher le président de groupe LR pour le nommer ministre. Et ce bon coup, il ne peut tellement pas y résister que même un profil dont il savait sûrement qu'il pouvait poser problème ne l'a pas empêché de faire ce choix.
Les mots de Marine Le Pen au micro d'Élodie Forêt. Voici donc, Maxence, la première ministre face à sa première crise.
Le pire moment, son cabinet est à peine en place. Elle devait dérouler ses nouvelles ambitions. Elisabeth Borne ne pourra nulle part échapper à cette question. Le pire sujet aussi, 30 ans sans la moindre femme à Matignon. Et dès sa première semaine, une affaire de viol. Alors que les violences sexuelles font partie de ses engagements personnels. Elle lui a d'ailleurs rappelé hier soir, lors de leur tête-à-tête à Matignon, la défense d'Abad est trop tiède, analyse à chaud un membre de la majorité. Personne n'est prêt à le soutenir et il apparaît presque abattu. Tous veulent que cette affaire ne passe pas la semaine.
Elisabeth Borne, chargée par le président de la planification écologique avec deux ministres, Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher, pour donner corps à cette promesse. Le trio s'est rendu aujourd'hui au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, Anne Souhaitemont.
Mesdames les ministres, ça va bien depuis ce matin?
L'image est soignée. Dans les serres du Jardin des Plantes, Elisabeth Borne
Hollande met en scène la nouvelle architecture gouvernementale. Une première ministre directement chargée de la planification écologique qui sonne la mobilisation générale.
La planification écologique concernera tous les ministres qui auront chacun une feuille de route pour tenir nos objectifs au moment où on doit absolument accélérer.
À la barre pour mener cette transition, deux ministres, dont Amélie de Montchalin, en charge de la transition écologique, une techno, oui, mais qui promet du dialogue.
Certains Français pensent que nous n'allons pas assez vite sur la transition. D'autres sont inquiets de ne pas être assez accompagnés. Nous voyons que nous pouvons faire de l'écologie, de la transition écologique, un projet national, un projet de cohésion, par le dialogue, par la concertation.
À ses côtés, Agnès Pannier-Runacher, en charge de la transition énergétique, dont la feuille de route est claire, amener la France à la neutralité carbone d'ici 2050 en développant le renouvelable.
C'est ici et maintenant qu'il faut le faire, car nous sommes dans un contexte particulier, celui de la crise en Ukraine, celui où il y a des tensions sur nos approvisionnements en matière énergétique, et cela doit être un aiguillon supplémentaire pour mener ce combat.
Arrimer la transition écologique, promesse d'Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours à la question du pouvoir d'achat, priorité numéro un des Français.
Anne Souhaitement avec Geoffrey Marianne. Emmanuel Macron qui veut une équipe pour agir, pour rassembler notre pays, une fois n'est pas coutume. Les caméras étaient autorisées à filmer les premiers mots de ce premier conseil des ministres aujourd'hui, avec en dossier prioritaire aussi le projet de loi pouvoir d'achat. Il sera d'ailleurs présenté avant les législatives, on en connaît les grandes lignes. Bouclier tarifaire, chèque alimentation, ristourne à la pompe, hausse des prestations sociales et des retraites. Et quand on parle casting, aujourd'hui on parle du gouvernement, mais on parle aussi de foot. Kylian Mbappé, superstar, le joueur l'a confirmé hier, il va rester au Paris Saint-Germain et aujourd'hui, costume cravate face à la presse pour expliquer son choix de rester en France. Bonsoir Nicolas Perronnet.
Bonsoir.
Du foot et un peu de politique, hein, Nicolas, puisque le joueur a laissé entendre qu'Emmanuel Macron avait eu un petit rôle dans son choix.
Un Kylian Mbappé très patriotique, effectivement, qui a beaucoup parlé de la France pour justifier son choix, alors qu'il avait l'intime conviction l'été dernier de partir au Real Madrid. Alors ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a finalement convaincu tout seul, du contraire, mais ça a pesé.
Il m'a donné des bons conseils. Bien sûr qu'il voulait, beaucoup que je reste, comme beaucoup de personnes voulaient que je reste, et ça fait partie des échanges. Vous savez, dans ce genre de négociation, vous échangez avec pas mal de personnes avec qui vous penseriez jamais échanger avant que ça se passe.
À Kylian Mbappé assure ne pas avoir dit non au Real Madrid, mais oui à la France. D'ailleurs, et ça a joué aussi un rôle non négligeable. Le champion du monde a obtenu l'assurance du PSG d'être libéré pour jouer avec l'équipe de France les Jeux Olympiques en 2024 à Paris.
Il y a aussi, on l'imagine, un choix sportif, Nicolas.
Le sportif avant l'argent, dit-il, et avant le rôle qu'il pourrait avoir sur les futurs choix du club. On a beaucoup entendu parler ces derniers jours d'un Kylian Mbappé devenu patron du PSG qui aurait obtenu les rênes du club. Lui s'en défend. Le PSG n'est pas devenu le FC Mbappé.
Je reste quand même un joueur de foot, même si bien sûr il y a des statuts dans une équipe. Tout le monde connaît ma passion, j'aime discuter foot, parler foot, mais j'irai jamais au-delà de ma fonction de joueur de foot.
À Kylian Mbappé qui a obtenu quand même certaines garanties, hein, l'éviction du directeur sportif Leonardo et l'arrivée probable à ce poste important d'un proche du clan Mbappé, le Portugais Luis Campos.
L'agitation n'est pas terminée donc côté Paris Saint-Germain. On connaîtra certainement le nom du nouvel entraîneur dans les prochains jours.
Et à 19h09, Hélène, en Ukraine, l'armée russe bombarde sans relâche la ville de Severodonetsk.
Qui se trouve dans la région de Louhansk, dans le Donbass. La ville est quasiment encerclée par les Russes. La situation devient de plus en plus difficile, reconnaissent les Ukrainiens. Laurent Maquettier, Valérie Krova, bonsoir. Vous vous trouvez tous les deux, hein, Valérie, à une centaine de kilomètres de là, à Kramatorsk. Est-ce que vous nous confirmez que les Ukrainiens reculent ?
Écoutez, il faut être prudent, mais il semblerait que les forces ukrainiennes se replient alors que les bombardements ont redoublé d'intensité. Les tanks russes pilonnent méthodiquement Severodonetsk depuis plusieurs jours. Il n'y aurait plus que quelques milliers d'habitants sur les 100 000 que comptait la ville avant-guerre. Alors, un Français qui s'est rendu récemment sur place pour évacuer des civils nous disait avoir vu des immeubles détruits tous les 10 mètres. Le gouverneur de Lugansk a appelé ce soir tous les civils qui sont restés dans la ville à ne pas quitter leur cave. Ce même gouverneur expliquait ce matin que l'armée russe avait concentré le maximum de ses forces pour reprendre le contrôle de Severodonetsk, notamment des troupes qui se sont retirées de la région de Kharkiv dans le nord-est de l'Ukraine et celles qui se trouvaient à Mariupol dans le sud-est.
Est-ce que la ville pourrait tomber prochainement, Valérie ?
Alors c'est ce qu'on entend dire ici, le principal pont qui permettait d'accéder à Severodonetsk a été bombardé, les troupes russes veulent couper l'accès à la ville pour l'encercler. Il n'est pas impossible que les forces ukrainiennes décident même d'abandonner la ville qui se trouve sur une colline et qui est par conséquent un point stratégique important pour les forces russes qui pourraient avancer plus au sud.
Valérie Krova et Laurent Maquetti en direct de Kramatorsk. La justice ukrainienne aujourd'hui a condamné le sergent Vadim Chichimarin à la prison à vie. C'était le premier soldat russe jugé pour crime de guerre depuis le début du conflit en Ukraine. Il avait reconnu la semaine dernière avoir tué un civil dans un village du nord-est du pays. Bouleversant témoignage aujourd'hui au procès du crash de la Yemenia Airlines. L'unique survivante, 12 ans au moment de la catastrophe aérienne, a témoigné à la barre, compte rendu d'audience à lire sur franceinter.fr. Et puis on vous parlait ce matin de ces 200 enfants français encore détenus dans des camps en Syrie, nés de parents ayant rejoint la cause djihadiste. La France ne rapatrie qu'au cas par cas, alors les familles relancent leur appel, espérant que ce début de second mandat pourrait impulser d'autres choix. Elles sont soutenues d'ailleurs par le président de l'une des associations de victimes du 13 novembre qui a perdu son fils au Bataclan. Philippe Duperron en appelle à Emmanuel Macron.
Nous lui demandons de tout mettre en œuvre pour rapatrier ses enfants qui sont des ressortissants français et par conséquent, ça n'est qu'une question de volonté politique qu'il faut assumer. Notre présence, nous l'avons voulu comme un message fort. Nous sommes une association de victimes des attentats du 13 novembre 2015 et nous considérons que au cas particulier, c'est l'intérêt supérieur des enfants qui est en cause et que ces enfants-là sont des victimes, d'une certaine manière, indirectement, des victimes de Daesh et des victimes de la radicalisation. Or, la prévention de la radicalisation est l'un des buts que poursuit notre association et nous considérons donc que nous sommes à notre place. Bien sûr, cela ne fait pas l'unanimité, mais nous estimons que nous, contrairement à l'État français, nous devons assumer nos responsabilités et que cela fait partie de nos responsabilités.
Philippe Duperron, président de l'association de victimes 13-11-15 avec Sophie Parmentier, alors que les plaidoiries des parties civiles ont commencé aujourd'hui au procès des attaques. Il avait rendu hommage à Samuel Paty dès vendredi lors de la passation de pouvoir. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale s'est rendu au collège du professeur d'histoire-géographie assassiné à Conflans-Sainte-Honorine cet après-midi. Pape Ndiaye a échangé pendant une heure avec la communauté éducative pour faire passer le message, dit-il, que c'est la République qui gagne malgré tout. Un premier déplacement symbolique pour le ministre, alors qu'il se sait attendu par l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, sur les salaires, sur la reconnaissance, sur le sens de leur métier. Des préoccupations qui ressortent franchement de l'enquête annuelle de l'UNSA, deuxième syndicat derrière la FSU, rendue publique aujourd'hui. Tous les personnels de l'éducation nationale sondés et un record de participation cette année. 42 000 réponses. Bonsoir Sonia Princey.
Bonsoir.
Et c'est vraiment ce qui ressort de cette enquête, c'est ce manque de reconnaissance.
Oui, un quart seulement des personnels se sentent reconnus et respectés. Ils étaient encore près de la moitié en 2016 et un tiers l'an dernier. 29% ne trouvent plus de sens à leur mission. Et à la question « Quel mot caractérise le mieux votre état d'esprit ?», ils répondent « Incertitude, fatigue et colère ». Frédéric Marchand, le secrétaire général de l'UNSA, n'a jamais vu un baromètre aussi négatif.
On a réellement besoin de réparer des choses. On a eu des vraies ruptures dans ce quinquennat avec un effet du ministre précédent. On a besoin, dans le dialogue, dans la construction, de créer les moyens de mieux reconnaître les personnels.
Des personnels qui pourtant aiment leur métier, mais ils sont 78% à dire qu'ils ne le conseilleraient pas à un jeune et 29% veulent quitter l'éducation nationale, c'est 10 points de plus qu'en 2017. Parmi les trois thèmes à améliorer au plus vite, sans surprise, vous vous en doutez, c'est le pouvoir d'achat.
Cette année, ils sont 68% à le mettre en priorité. La moyenne sur les 5 dernières années, c'est de 62%. Donc on voit bien que c'est la préoccupation majeure. Il y a besoin à un moment donné d'un choc sur la question de la revalorisation. Pour tous les personnels, ils sont tous dans cette demande.
Viennent ensuite dans les autres préoccupations la charge de travail et les perspectives de carrière, avec des nuances selon les métiers. 65% des directeurs d'école, par exemple, mettent la charge de travail quasiment à égalité avec le pouvoir d'achat.
Sonia Princey, il était hier encore avec des jeunes pour témoigner. Il faisait partie de ceux qui racontaient son histoire pour qu'on ne l'oublie pas. Élie Buzyn, survivant de la Shoah, est mort aujourd'hui à 93 ans. C'est sa fille, l'ancienne ministre Agnès Buzyn, qui l'a annoncé.
Des grêlons, gros comme des poings, gros orages la nuit dernière dans le centre et dans l'ouest.
Et de longues files d'attente aujourd'hui devant les compagnies d'assurance. La foudre, le vent, mais surtout la grêle ont fait très gros dégâts. 2000 appels pour les pompiers de l'Indre, plus de 6000 impacts de foudre en 3 heures dans le Berry et à Châteauroux, combien de pare-brises explosés? Justine Clot a fait la queue avec les sinistrés devant la Massif.
Dans la file, on ne parle que de ça, des grêlons gros comme des balles de tennis, forcément ça fait des dégâts.
Sa voiture, elle a explosé quoi. Il y a plus de pare-brise, il y a plus de vide, il n'y a plus rien.
Mais j'ai le voisin, il vient de se faire mettre des volets.
Ces volets roulants,
ils sont aussi en aluminium, ils sont cabossés.
Ouais, c'est vrai.
La plupart des assurés viennent pour déclarer un sinistre sur leur voiture. Celle de Denise de Châteauroux est complètement cassée.
Elle est neuve, je viens de l'avoir le 10. Alors, le pare-brise éclaté, la vitre arrière éclatée, plein de bosses, des vraies balles de ping-pong. J'ai eu peur, hein. Je ne suis pas sortie, mais les dégâts, il y en a. Hein.
Avec la violence de l'orage, des toitures sont aussi endommagées. L'appartement d'Asdine, boulevard Blaise Pascal, a été inondé.
Moi, j'ai l'eau dans la chambre, les enfants, et j'ai les petits bassins dans le salon. L'eau qui rentre jusqu'à là, hein. L'eau qui rentre, abusé. Je ne sais pas comment je vais aller travailler. Ma voiture, elle est morte. Hein. Je vais voir avec les assurances comment ça va marcher. Hein.
Comme tout le monde ici, Daniel n'a pas perdu de temps. À son réveil, dès qu'il s'est aperçu des dégâts, il a filé directement chez son assureur. Il espère être indemnisé rapidement.
Ben, on vient voir, on va essayer de se faire indemniser ou voir pour faire réparer les pare-brises. Mais ça va être la pénurie chez tous les réparateurs parce que tous les gens qu'il y en a, il y en a la moitié que c'est les voitures. Hein.
Si vous aussi, vous avez été victime de l'orage, vous avez jusqu'à vendredi pour déclarer un sinistre.
Reportage France Bleu Berry. Puisqu'on parle voiture, les ventes de voitures électriques ont doublé en un an. Elles représentent désormais 10% des ventes de voitures neuves dans le monde. Et voici des propos climato-sceptiques qui ne passent pas. HSBC a suspendu l'un de ses plus hauts dirigeants pour avoir minimisé l'impact du changement climatique. Qu'est-ce que ça peut faire si Miami est 6 mètres sous l'eau dans son temps, s'est-il notamment interrogé. Allez, on part sur la Croisette, le festival de Cannes, qui cette année va devoir faire sans les touristes russes. La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie ont encore amplifié une tendance déjà marquée par la crise sanitaire. La clientèle russe n'était pas la plus importante, mais elle dépensait beaucoup d'argent. C'est le reportage à Cannes de Delphine Evenou.
Dans les agences immobilières, le constat est sans appel.
Depuis le début de la guerre, quasiment du jour au lendemain, on n'a plus aucun contact sur la clientèle russe.
Romain Benichou, spécialiste des biens de luxe pour l'agence Century 21.
Le dernier dossier en cours qu'on avait avec un russe, par exemple, n'est pas allé au bout parce que la banque ne les a pas financés. C'est sûr que pour quelques années, à mon avis, on ne va plus les avoir. Parce qu'eux aussi ont des restrictions. Leur pays leur interdit très souvent de sortir leurs capitaux. Nous, de notre côté en Europe, on a Tracfin où on doit contrôler leurs capitaux.
Un marché modifié aussi dans le secteur des yachts, notamment pour les locations, où un tiers des clients qui veulent s'offrir une luxueuse croisière privée sont des Russes. Fabrice Viard gère la logistique entre la terre et les navires pour Liberty Yacht.
Il y a eu effectivement des annulations, mais elles ne sont pas massives. Et c'est encore un peu tôt pour le dire, parce que la saison de fréquentation des yachts par les Russes, en général, commence à partir de mi-juin.
Mais pas d'inquiétude pour l'agent maritime, ni pour l'agent immobilier. D'abord car de nombreux Russes qui ont la double nationalité sont toujours présents. Et puis parce que des ressortissants d'autres pays les ont vite remplacés, comme le confirme Thomas de Pariante, adjoint au maire de Cannes chargé du tourisme.
Un énorme travail a été fait du côté des États-Unis, du côté du marché moyen-oriental, du côté des Européens et des destinations de proximité. Les perspectives pour juin et juillet sont excellentes et meilleures qu'elles n'ont jamais été.
Avant le déclenchement de la guerre, les Russes représentaient 7% des touristes étrangers.
Un reportage signé Delphine Evenou. Et quand Paris est magique, on ne parle pas de foot ni du PSG mais de Diane Paris, 97e joueuse de tennis mondiale, qui a réussi l'exploit au premier tour de Roland-Garros d'éliminer la tenante du titre et numéro 2 mondial, Krejcikova. Double exploit français aujourd'hui à Roland-Garros, puisque le Français Corentin Moutet écarte de son côté le vainqueur du tournoi en 2015, Stanislas Wawrinka.
Eh ben, bravo à tous les deux, Hélène Philippe pour le journal. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, évidemment, c'est le téléphone sonne avec l'un des très gros chantiers à venir pour ce nouveau quinquennat, l'hôpital en état d'épuisement. On y vient ensemble dans un tout petit instant. Un œil sur le ciel, juste avant.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Et Élodie Calac, encore un peu plus frais pour demain.
Oui, encore quelques degrés de moins. Alors, il fera souvent 7 à 14 degrés le matin, 15 à 19 sur le sud-est. Et puis l'après-midi, 15 degrés à Cherbourg, 17 à Lille, 18 à Paris, Angers, Nevers, Bordeaux ou Toulouse. 22 degrés du côté de Strasbourg ou de Lyon, 24 à Montpellier et encore 27 à Toulon ou à Bastia.
Voilà, et ce sera changeant avec encore quelques averses aussi.
Oui, alors moins d'averses qu'aujourd'hui. On aura souvent une alternance d'éclaircies et de nuages. Le matin, on trouvera quelques averses résiduelles de l'Alsace à l'est de Rhône-Alpes, quelques-unes aussi sur les régions voisines de la Manche et de l'océan. L'après-midi, quelques averses sur l'ouest jusqu'au nord de la Seine. Quelques ondées pour le sud-est qui épargneront la Côte d'Azur. On aura des éclaircies qui s'élargiront sur les régions voisines de la Manche. Et puis sur les Pyrénées centrales jusqu'au Languedoc-Roussillon, là, beaucoup de nuages toute la journée. Des averses fréquentes près du relief. Parfois un orage le matin. Un petit peu de neige au-dessus de 2000 mètres. Et la tramontane qui soufflera jusqu'à 50 km à l'heure.
Élodie Calac de Météo France. Merci.